Très bien, bonsoir à tous et que Dieu vous bénisse. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'entretien avec Nicodème, qui est au troisième chapitre de l'évangile de Saint Jean. Nous nous étions arrêtés la dernière fois donc aux noces de Cana, et là maintenant nous parlons de l'entretien avec Nicodème, mais je voudrais dire quand même deux mots sur la fin du chapitre 2, les versets 13 à 22. Ces versets concernent l'épisode des vendeurs chassés du temple. Bon, je ne vais pas en parler beaucoup, mais bon, vous savez que ce récit est assez célèbre et a souvent donné lieu à des interprétations, à des exégèses un peu moralisantes, dans le style pas de commerce, enfin, éviter tout ce qui peut tourner autour de la maison de Dieu. Bon, ça c'est un niveau de signification, hein, ne faites pas de la maison de mon père une maison de commerce, dit le Seigneur. Mais tout de même, il y a une signification beaucoup plus profonde, me semble-t-il. C'est qu'en intervenant dans le temple pour en chasser les vendeurs, pour chasser les vendeurs d'animaux, les marchands de bœufs, de brebis, de colombes et les changeurs assis à leur table, en faisant cela, le Seigneur veut nous dire quelque chose. Parce que au temple de Jérusalem, il y a des sacrifices journaliers. Il y a le sacrifice du matin, il y a le sacrifice du soir, et il y a des sacrifices pour qui correspondent à diverses demandes. Et ceux qui parmi les fidèles juifs demandent qu'un sacrifice soit fait, donc le payent, et ils changent la monnaie usuelle qui est à court dans le pays avec donc une monnaie qui est compatible avec le temple. Monnaie sur laquelle il n'y a aucune effigie de type païen. Alors, lorsque vous chassez les marchands de bœufs, de brebis, de colombes et les changeurs, vous mettez en quelque sorte le temple en cessation d'activité. Donc, la leçon profonde, la plus importante de cet épisode du temple, c'est l'annonce de la fin des sacrifices araoniques. C'est l'annonce que le sacrifice du Christ accomplit tout et donc rendra caduques les sacrifices araoniques. Voilà ce que je voulais dire très brièvement sur cette question des vendeurs chassés du temple. Bien sûr, on peut aller dans d'autres directions, mais celle-ci me paraît très importante. Et il y a aussi l'annonce de la résurrection qui est en filigrane hein, dans cet épisode du temple, puisque le Seigneur dit « Détruisez ce sanctuaire et je le relèverai en 3 jours ». Les Juifs répondirent « Ce sanctuaire a été bâti en 46 ans et toi en 3 jours tu le relèverais ». On sait à quoi correspondent ces 3 jours dont il est fait mention dans ce récit. Ensuite, il y a le lien, avant d'en arriver à Nicodème, il y a un petit passage, les versets 23 à 25, toujours du deuxième chapitre, qui termine le deuxième chapitre, et ces versets méritent d'être rappelés. Tandis qu'il était à Jérusalem, pendant la fête de la Pâque, beaucoup crurent en son nom, à la vue des signes qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait pas à eux, parce qu'il les connaissait tous, et qu'il n'avait nul besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait, lui, ce qu'il y a dans l'homme. Voilà, j'attire votre attention sur le verset 23, parce qu'on va le retrouver de différentes manières dans le, les chapitres qui suivent, beaucoup crurent en son nom à la vue des signes qu'il faisait. Or, c'est précisément ce qui va se passer au début du troisième chapitre de Saint Jean avec l'homme qui, parmi les pharisiens, s'appelle Nicodème, qui est un chef des Juifs, et qui vient trouver Jésus et qui lui dit « Rabbi, nous savons que tu es venu de la part de Dieu comme » bon là, ma traduction dit « docteur », mais c'est « didascalos », c'est « maître », car personne ne saurait faire les signes que tu fais si Dieu n'est avec lui. Je vais revenir là-dessus. Alors, ce chapitre 3, il comporte deux parties. Je vais m'intéresser à la première partie, qui est l'entretien avec Nicodème. L'entretien avec Nicodème lui-même, dans le troisième chapitre, est divisé en deux parties, les versets 1 à 21, et les versets 22 à 30. Ensuite, il y a les versets 22 à 36, qui est un nouveau témoignage de Jean-Baptiste. On va prendre ce soir les versets 1 à 21 et voir que, à l'intérieur de l'entretien avec Nicodème, il y a deux ensembles. Les versets 1 à 12, le dialogue entre Nicodème et Jésus. Et le discours de Jésus en forme de monologue des versets 13 à 21. Alors, en préliminaire, je voudrais dire que à partir du chapitre 3 jusqu'au chapitre jusqu'à la fin du quatrième chapitre, donc jusqu'au verset 54, il y a la rencontre de trois personnes avec Jésus. Nicodème, la femme de Samarie et la guérison d'un officier d'Hérode Antipas. La femme de Samarie, j'en parlerai lors de la prochaine rencontre, donc je ne vais pas m'éterniser dessus, mais je veux simplement attirer votre attention sur des similitudes quant à la structure de ces trois entretiens avec Nicodème, avec la femme de Samarie et avec l'officier royal d'Hérode Antipas. Nicodème, donc, c'est trois personnes très différentes, hein, puisque Nicodème, nous dit l'Évangile, c'est un chef des Juifs, un homme qui est un pharisien, un homme parmi les pharisiens, et qui est très probablement membre de la Grande Assemblée, donc du Grand Sanhédrin, ainsi que c'est mentionné au 7e chapitre de Saint Jean. La femme de Samarie, bon, bien sûr, elle appartient au peuple des Samaritains, qui est rival des Judéens, qui ont eu un temple rival de celui de Jérusalem, sur le mont Garitzim, qui ont une partie de l'écriture sainte des Judéens, c'est-à-dire le Pentateuque, qui ne reconnaissent que le Pentateuque. Ils n'ont pas les écrits prophétiques et ce qu'on appelle les Ketubim, les autres écrits, encore que au temps où le Seigneur était sur la terre, le canon des autres écrits est loin d'être fixé. Enfin, eux, ils ont le Pentateuque. Et donc, c'est des ennemis des Judéens qui sont. Les Judéens le considèrent comme impur. Et quand on traverse la Samarie, on fait vite quand on est Judéen. Et puis, l'officier royal d'Hérode Antipas, qui serait, pas la certitude, mais qui serait païen, qui n'appartiendrait pas au peuple juif. Donc, ces trois personnes assez différentes, mais qui ont des réactions qui sont assez semblables par rapport au Christ, lorsqu'il le rencontre. Nicodème, il dit que Jésus vient de Dieu, est envoyé par Dieu à cause des signes qu'il accomplit. Donc c'est quelque chose de positif. Hein. Je veux dire, c'est pas Nicodème ne s'adresse pas au Christ en ennemi. Hein. Il le reconnaît comme nous savons, on va voir ce que ça signifie, nous savons que tu viens de Dieu parce que à cause des signes que tu accomplis, tu ne peux venir que de Dieu, finalement. La femme de Samarie, elle entrevoit quelque chose du mystère de la personne de Jésus, puisque à un moment donné, elle dit « Ne serait-ce pas lui le Messie ?» Bon, en point d'interrogation, hein, donc elle n'est pas sûre, mais d'après les paroles qu'elle a entendues, d'après la personne qu'elle a en face d'elle, elle se pose la question. Et l'officier royal, lui, bah, il est très confiant vis-à-vis du Seigneur, comme ça nous est dit dans le récit de la guérison de son fils. Il le croit sur parole, en fait. Mais à chaque fois, dans les trois cas, Jésus ne se satisfait pas de cela, et il leur répond d'une manière assez abrupte, en définitive. C'est assez curieux, hein, je veux dire, la réponse de Jésus dans ces trois dialogues, elle est abrupte et déstabilisante. Donc, ça a une signification. C'est pas par hasard qu'il répond de cette manière abrupte, et ça n'est pas par hasard qu'il cherche à déstabiliser ses interlocuteurs. Parce que le fait de les déstabiliser, ça va les mettre en mouvement, quelque part, intérieurement. Ce qu'ils étaient venus chercher, ils viennent chercher quelque chose dans ce dialogue, et ils vont trouver autre chose. Ils vont devoir s'ouvrir à autre chose, à une autre perspective que celle qu'ils étaient venus chercher. Et évidemment, Jésus le fait parce qu'il connaît le désir intime de chacun de ses interlocuteurs. Alors, par exemple, il va s'opposer tout de suite à Nicodème. Je vais venir à lui. Il va opposer un nous qui sait. Nicodème lui dit « Nous savons » que je reprenne le verset exact, « Nous savons que tu es venu de la part de Dieu comme maître. » Donc, Nicodème parle comme quelqu'un qui sait, et Jésus va lui opposer un « vous » qui ne reçoit pas ce témoignage, qui ne reçoit pas le témoignage. Et il y a un décalage, et le décalage, il va se répéter avec la Samaritaine et il va se répéter également avec l'officier royal. Il y a un décalage parce que Nicodème, il se situe sur le plan du savoir et Jésus va lui parler sur un autre plan, celui de naître, celui de la nouvelle naissance. Donc vous voyez, et ça c'est des situations que l'on retrouve en permanence dans l'évangile de Jean. D'où l'utilisation de mots qui sont souvent à double entente. On va voir un peu plus loin que quand il va s'agir de la naissance d'en haut, Nicodème va comprendre l'adverbe grec anosen dans le sens de nouveau, alors que le Seigneur va lui parler dans le sens, parce que c'est l'un des sens de l'adverbe, d'en haut. Donc on est toujours sur des situations en décalage. La parole du Seigneur, quelque part, déséquilibre l'interlocuteur, mais pas pour le faire tomber, pour le faire monter. Hein, c'est un peu l'écho « mon ami monte plus haut ». L'objectif, c'est de l'ouvrir à une perspective pour laquelle son interlocuteur n'était pas préparé. Et bon, bah, à travers Nicodème, c'est un procédé que le Seigneur utilise avec les hommes de toutes les générations, je veux dire. Avec la Samaritaine, ça va être un peu la même chose. Il va lui dire, l'heure, quand elle lui dit « Nos pères ont adoré sur cette montagne », il va lui dire « L'heure vient » ou « En vérité ». Et elle est déjà là où les vrais adorateurs du Père adoreront en esprit et en vérité. Un officier royal qui lui demande instamment d'aller au plus vite à Capharnaüm pour guérir son fils, il lui dit « Mais vous ne pouvez donc croire à moins d'avoir reçu des signes et des prodiges. » Donc voilà ce processus de décalage et de déstabilisation qui est en vérité plein d'enseignements, comme nous allons le voir. Alors, avec ce grand personnage de Nicodème qui nous occupe aujourd'hui, dès le premier verset, on a des renseignements sur qui il est. On nous dit qu'il est un homme parmi les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs. Le premier verset nous donne la situation de ce personnage. Donc il appartient aux pharisiens, les pharisiens qui jouent un rôle extrêmement important. Flavius Joseph nous dit que au premier siècle, ils sont environ 6 000. Ça peut paraître un chiffre réduit. Selon certains auteurs, c'est pas un chiffre énorme, mais bon, il faut mettre ça en rapport toujours avec, d'une part, les populations, mais surtout la structure de cette confrérie des pharisiens. Les pharisiens sont très fortement organisés, ils ont un enseignement très structuré. Ils sont, disons, très attentifs sur les lois lévitiques de la pureté et ils sont orientés vers l'idée de porter la sacralité du temple à toute la société d'Israël. Alors, ils ont une influence énorme parce que ils sont très populaires. Contrairement à la caste des prêtres, et des Sadducéens du Temple de Jérusalem, qui sont une aristocratie assez coupée du peuple, les pharisiens irriguent véritablement par leur enseignement toute la société d'Israël et s'opposent assez fortement à la caste aristocratique du Temple, sachant qu'ils ont aussi parmi leurs adeptes des prêtres qui servent au Temple. Donc voilà, Nicodème fait partie de ces pharisiens, et c'est pas n'importe quel pharisien, puisque au 7e chapitre, on le voit participer, je vais prendre ce qui nous en est dit, on le voit participer donc à la réunion, c'est pas dit tel quel, mais on le voit participer à la réunion du Grand Conseil, du Sanhédrin. Et Nicodème, donc, dont on parle dans le 3e chapitre, on va en parler à 3 reprises dans tout l'évangile de Jean. Donc au chapitre 7, c'est dans les versets 50 à 53. Lorsque... il y a la réunion du Sanhédrin, lorsque on veut arrêter Jésus, et lorsque on veut le juger, alors même qu'il n'est pas là. Et Nicodème, s'appuyant sur la loi deutéronomique, dit aux autres membres du conseil, « Notre loi condamne-t-elle un homme sans qu'on l'ait d'abord entendu et sans qu'on sache ce qu'il a fait ?» C'est au verset 51 du 7e chapitre. Alors, évidemment, il y a la réponse des autres. Ils lui répondirent, « Toi aussi serais-tu de Galilée ? Scrute et constate qu'il ne se lève point de prophète de la Galilée. » Donc là, il se met en avant, Nicodème. Il vient, au début du chapitre 3, il vient voir le Seigneur de nuit. On va voir pourquoi. Et là, il s'oppose à ses pères, donc au Sanhédrin. Et puis, on va le retrouver en Jean 19, 39, où il va participer à l'ensevelissement du Seigneur. Et il apporte, nous dit-on, un mélange d'environ 30 kilos de myrrhe et d'aloès pour l'ensevelissement du Christ. Vu la quantité qui est indiquée, on peut supposer que non seulement Nicodème est un homme très en vue parmi les pharisiens, mais que c'est aussi un homme riche. Alors, revenons au chapitre 3. La rencontre, elle a lieu de nuit. C'est intéressant de voir que le chapitre 3 commence par l'évocation de la nuit, et la première partie du chapitre 3, donc, qui se termine au verset 21, et se termine par l'évocation de la lumière. Vous avez remarqué, nous avons remarqué, que depuis le prologue, on est toujours dans cet antagonisme ténèbres, lumière, nuit, jour, et ce sont des thématiques qui parcourent tout l'évangile de Jean. Donc Nicodème vient dans la nuit, et au verset 21, on nous dit « Qui fait la vérité vient à la lumière ». Et on peut dire que Nicodème ne vient pas seulement de nuit, il vient de la nuit. C'est ça aussi qui est sous-entendu. Alors, il y a des interprétations diverses sur cette visite nocturne. On dit que Nicodème a peur. Mais je pense que c'est une lecture un peu trop rapide. Je pense que, bon, effectivement, il vient en toute discrétion voir Jésus. Il est prudent, c'est un homme prudent, parce qu'il sait que l'enseignement de Jésus suscite des oppositions. Mais en même temps, est-ce qu'il a peur? Je ne sais pas, je ne saurais pas le dire. Bon, peut-être que vous pourrez vous exprimer là-dessus, mais je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il a peur. Il vient en toute discrétion, ça c'est sûr. Mais en même temps, comme il emploie un pluriel, Rabbi, nous savons que, peut-être vient-il comme aussi porte-parole d'un certain nombre de gens qui veulent savoir, en savoir plus sur Jésus. Donc vous voyez, la question n'est pas tranchée. Il vient dans la discrétion parce qu'il y a une grande méfiance des notables juifs vis-à-vis de Jésus. Et depuis le début de l'évangile de Jean, on le sait, ça, et l'épisode des vendeurs chassés du temple ne fait que renforcer cette impression. Épisode d'ailleurs qui, dans l'évangile de Jean, est placé en tête du ministère public, hein, contrairement aux synoptiques. Alors, il faut noter aussi que, par rapport aux pharisiens et à la caste des prêtres du temple, les sadducéens, ceux qui ne croient pas à la résurrection, comme le dit l'Évangile, bien qu'il y ait une opposition, plus tard, plus loin dans l'Évangile ce sera raconté, il y aura une alliance entre les pharisiens et les prêtres pour faire périr Jésus. Malgré cette forte opposition, il y aura quand même un intérêt commun entre les deux. Alors, on peut penser que par ses paroles, Nicodème témoigne du fait qu'il est animé par une recherche de la vérité. Il est animé par une quête spirituelle. C'est pas, il place ça sur un, Sa première parole relève de quelque chose qui est de l'ordre du savoir, mais tout de même, il constate, au vu des signes que le Seigneur accomplit, que cet homme n'est pas n'importe quel homme, qu'il vient de Dieu, et il veut aller plus loin. Donc il cherche. Alors la nuit, Nicodème vient de la nuit, mais un petit peu comme tout homme, parce que dans l'évangile de Jean, l'homme, il est toujours en rapport avec la nuit. Et c'est le Christ qui va le faire passer des ténèbres de la nuit à la lumière. Pourquoi ? Parce que, d'une manière générale, au-delà de Nicodème, parce que Nicodème est aussi emblématique quelque part des autres hommes, au-delà de Nicodème, il y a un désir profond dans le cœur de l'homme qui le porte vers Dieu. Vous savez, c'est Saint Grégoire de Nice qui en parle très abondamment de cette chose-là. Il dit que l'homme ayant été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, il y a au plus profond de lui-même, si dégradé soit-il par ailleurs, il y a au plus profond de lui-même un désir qui le pousse, qui le tend vers l'avant. C'est ce qu'il appelle l'épectasis. C'est-à-dire, c'est cette tension en avant qui pousse l'homme par un désir profond vers Dieu. Et Nicodème fait partie de ces hommes-là qui sont animés par ce désir. Et d'ailleurs, c'est en cultivant ce désir que l'homme lui-même trouve sa propre vérité qui est enfouie à l'intérieur de lui-même, parce que c'est de cette manière, en naissant à la lumière, qu'il ne peut trouver sa vérité. Ce n'est pas autrement. Sinon, s'il ne naît pas à la lumière, il ne peut pas la trouver. On remarquera qu'il peut y avoir des retours en arrière. Judas, par exemple, un instant saisi par la lumière, va retourner à la nuit. Il va rechuter dans les ténèbres. Et d'ailleurs, le verset 30 du chapitre 13 de Saint Jean nous dit, c'est pas un hasard, « Il sortit et il faisait nuit. » Et donc, lui, il est retombé. Quête spirituelle, donc quête de vérité, qui fait vivre et qui rapproche du royaume de Dieu. Il est resté au niveau du savoir, mais en même temps, je pense qu'il ne pense pas, je pense que il a la conviction qu'il n'a pas fait le tour des voies qui conduisent à Dieu. Donc il s'interroge. Moi je le vois comme ça, je veux dire. C'est un homme sincère, Nicodème. Il est resté au niveau du savoir, mais c'est un homme sincère. Il est animé d'une quête spirituelle intérieure. Il cherche. Alors, la nuit, ça a aussi une autre signification. Ça n'est pas que synonyme de ténèbres. La nuit, c'est aussi dans la tradition hébraïque un moment privilégié pour méditer la loi. Au cœur de la nuit, c'est très bienfaisant de méditer la loi divine. Et c'est recommandé par la tradition. Donc, la nuit, ça peut aussi être un temps privilégié de rencontre avec Dieu. C'est pas simplement synonyme de ténèbres. Et enfin, on va le retrouver encore associé à la nuit dans la troisième mention qui est faite de lui au chapitre 19, verset 39, donc verset sur l'ensevelissement. Et on nous dit que c'était le soir, donc à la tombée de la nuit. Maître, nous savons. Donc, le dialogue commence entre Nicodème et Jésus lorsque Nicodème se réfère au signe que le Christ accomplit et dit « Nous savons que tu es un maître qui vient de la part de Dieu, car personne ne peut opérer les signes que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » C'est le verset 2. J'ai trouvé Citation d'un exégète qui s'appelle Donatien Mola, c'est un exégète du XXe siècle, qui fait la remarque suivante, qui nous dit « Néanmoins, Jésus n'est pas satisfait. » Parce que, évidemment, on pourrait penser qu'un dialogue va s'engager sur le mode du savoir. Hein. Nous savons, et bon, que le Christ continue sur cette ligne-là du savoir, de la connaissance du savoir. Hein. Et or, Jésus n'est pas satisfait, parce que il lui répond sur un autre plan. Il lui répond de manière très abrupte sur un autre plan. « Amen, amen, je te le dis, nul, s'il ne renaît d'en haut, ne peut voir le royaume de Dieu. » Donc il n'est pas satisfait, et Donatien Mola fait cette remarque. « Néanmoins, Jésus n'est pas satisfait. Ce « nous savons » cache une illusion. En réalité, Nicodème, c'est moins qu'il ne pense. Dans les signes accomplis par Jésus, il y a plus qu'il n'y a vu. Le royaume de Dieu est là présent parmi les hommes. Cela, Nicodème ne le voit pas, car il n'accède pas encore au mystère du Fils de Dieu. » Et c'est ça, Nicodème, en restant au plan du savoir, ne peut pas accéder au mystère du Fils de Dieu. Et tout l'enseignement, tout le dialogue que le Christ va développer, va consister à passer du plan du savoir au dévoilement du mystère du Fils de Dieu avec la thématique de la nouvelle naissance. Vous voyez, c'est là que notre brave Nicodème va être conduit par le Christ. Parce que le savoir de Nicodème, ça n'est jamais le témoignage d'une science qui, si élevée soit-elle, est imparfaite, en tout cas ne donne pas accès à la connaissance qui est la plus utile, c'est celle du royaume, ne fait pas entrer dans le royaume, ne permet pas de voir le royaume et d'y entrer, mais c'est par la nouvelle naissance que l'on peut voir et entrer dans le royaume. Donc cette connaissance, si grande soit-elle, elle est limitée et elle ne donne pas le salut. Et c'est pourquoi Jésus va dévoiler devant Nicodème, va dévoiler qui il est. Ça sera la deuxième partie. Donc à partir du verset 13, cette partie où seul Jésus va parler, la personnalité de Nicodème va s'effacer, il n'y aura plus de dialogue, où Jésus va parler et va parler de qui il est, va évoquer qui il est, va parler du royaume et va montrer que lui seul peut y donner part par la nouvelle naissance. Donc on a dit que Nicodème est sur le plan du connaître et Jésus lui répond sur le plan du naître. On retrouve, là il y a une espèce de balancement avec le verset 13 du prologue, hein. Dans le prologue, dans le verset 13 du prologue, qui est finalement au centre du prologue de l'évangile de Jean, dans le verset 13, il nous est dit que à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont nés ni du sang ni de la chair, ni d'un vouloir d'homme, mais de Dieu. Donc c'est toujours cette thématique-là qui est en jeu, cette thématique de la nouvelle naissance, cette thématique de l'exode descendant du Verbe de Dieu qui prend la nature humaine, mais pour finalement permettre l'élévation de la nature humaine. Et donc c'est bien d'une nouvelle naissance dont il s'agit. Alors Nicodème, Jésus attire l'attention de Nicodème d'une manière assez solennelle. Hein. On traduit le « Amen, Amen » en vérité ». On a les deux acceptions selon les traductions. Mais c'est une manière particulièrement solennelle d'attirer l'attention sur ce qu'il va être dit. Et je te le dis, nul s'il ne renaît d'en haut ne peut voir le royaume de Dieu. Dans le texte grec, il y a ce fameux adverbe anothen qui a trois acceptions, soit dès l'origine, dès le commencement, soit de nouveau, soit d'en haut. Et dans ce qui nous occupe, évidemment, il faut retenir en premier lieu les deux dernières acceptions, c'est-à-dire de nouveau et d'en haut. De nouveau et d'en haut, la signification est à double entente, hein, toujours, là, c'est toujours le procédé johannique de la double entente. Nicodème, lui, il va entendre le de nouveau. D'où sa réaction. Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le sein de sa mère et naître? Alors, c'est un peu surprenant ça, parce que, bien sûr, Nicodème ne va pas entendre l'autre signification qui est la naissance d'en haut. Lui, il va rester au niveau de l'engendrement charnel. Mais j'avoue que je suis un peu interpellé, comme on dit, par cette réaction de Nicodème, parce qu'il n'est pas fou. Il sait très bien qu'on ne peut pas retourner dans le sein de sa mère pour renaître à nouveau, que l'engendrement charnel n'est pas réitérable. Il le sait. Bon. Donc, peut-être la manière dont il parle à Jésus, c'est une manière de l'appeler au secours et de dire « il faut m'en dire plus, là, parce que je ne comprends pas ». Je ne sais pas comment vous réagissez, vous, par rapport à ce verset, mais... Peut-être pensait-il à la PMA par avance, quoi. Bon, non, mais vous voyez, c'est surprenant. Parce que, évidemment, l'engendrement charnel n'est pas réitérable, mais en cela, l'engendrement charnel, il est aussi le symbole de l'engendrement spirituel, parce que l'engendrement spirituel non plus n'est pas réitérable. Hein? La nouvelle naissance, on est en esprit, et d'eau et d'esprit, on est une fois. Hein? Alors après, bien sûr, et les pères là, de l'Église sont absolument tous unanimes pour insister là-dessus, c'est un travail de toute une vie également, c'est-à-dire que la croissance dans l'esprit suppose toute la vie chrétienne. Hein? Et ça demande une croissance intérieure de tous les jours de la vie. Mais l'acte de naissance d'eau et d'esprit, il n'est pas plus que la naissance charnelle réitérable. Donc j'avoue que je suis un peu interrogé par ce verset qui nous donne la question de Nicodème, comment un homme peut-il naître quand il est déjà vieux? Peut-il entrer une seconde fois dans le sein de sa mère et renaître? Bon, ça reste un peu mystérieux pour moi, mais peu importe, je dirais, ce qui compte, c'est ce que l'Évangile veut nous dire à travers ça, à travers ce dialogue. Quel est l'enjeu? Quel est l'enjeu? Que signifie la réponse du Christ? Amen, amen, je te le dis, nul s'il ne naît de l'eau et de l'esprit ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Vous voyez, là, il y a encore ce décalage qu'on retrouve. L'un s'interroge sur la possibilité d'un réengendrement charnel, et le Christ répond par l'engendrement d'en haut, la naissance de l'eau et de l'esprit, pour entrer dans le royaume de Dieu. Alors, vous remarquerez qu'au verset 7, on parle d'entrer dans le royaume de Dieu. Précédemment, au verset 3, il s'agissait de voir le royaume de Dieu. Hein? Voir et entrer.
Oui. En ce qui concerne la question de Nicodème, est-ce que par rapport au texte de l'époque, est-ce qu'il n'y aurait pas une allusion peut-être à la réincarnation, par exemple, dans sa réponse? Et ça pourrait éventuellement, je ne sais pas dans le contexte de l'époque s'il était question de réincarnation.
Non,
ça pourrait peut-être faire allusion aussi, parce qu'effectivement, il n'était pas quand même pas bête, ça pourrait peut-être faire allusion aussi à ce genre de croyances qui pouvait avoir lieu dans l'époque.
Ça n'appartient pas à la tradition hébraïque. Et puis, de toute façon, là, c'est pas du tout évoqué, puisqu'il constate l'impossibilité, précisément, de renaître selon l'engendrement charnel. Donc,
il pourrait parler d'un autre engendrement charnel qui aurait trait à, comme certains le croient, à la réincarnation.
Oui, enfin, ça, rien ne...
Comme vous me demandiez tout à l'heure, qu'est-ce que vous pensez de sa réponse, je me dis, peut-être qu'il pourrait faire se dire, est-ce que tu veux parler de ça, ou est-ce que c'est complètement autre chose? Pour lui, c'était complètement...
Écoutez, de toute façon, c'est quelque chose qui est complètement étranger à cette tradition, et rien ne permet dans l'Évangile de l'affirmer. Donc je sais qu'il y a des gens qui, dans les milieux réincarnationnistes, se servent de ça aujourd'hui, mais bon, là, on n'est pas du tout en présence de ça.
Oui, enfin, je parle. Enfin,
non, mais bon, vous pouvez vous exprimer.
J'ai du mal, mais de l'époque, parce que j'avais entendu dire que même jusqu'à une certaine époque, on croyait à la réincarnation, donc ça a été évacué par la suite, mais que...
Oui, je sais pas sur quoi s'appuient les... J'ai entendu dire ça aussi, mais je sais pas sur quoi s'appuient les gens qui disent ça. Bon, il y a eu effectivement... Comment ?
Le problème des lits.
Oui.
Ah oui, voilà.
Oui, oui. Ou alors, la métempsychose, la migration des âmes, choses comme ça. Mais bon, c'est pas...
Est-ce que je ne vois pas ce qu'il peut imaginer d'autre ?
Non, on peut penser que, constatant l'impossibilité de réitérer l'engendrement charnel... Nicodème dit, mais où veux-tu aller? Qu'est-ce que tu veux me dire? C'est une forme d'interrogation, en fait.
La syntaxe du « mais » et « jamais »,
oui,
avec cette tournure qu'on rencontre constamment.
Oui.
Mais, tu veux pas dire quand même que ce serait ça.
Voilà, exactement.
C'est ironique.
Exactement.
Et même qu'un peu plus tard, en chapitre 7, justement, quand Nicodème prend la défense du Christ en disant, il faut quand même au moins écouter ce qu'il va dire. Il se rajoute sa part, il a peur, là. Il se met en avant.
Absolument.
Et on lui répond, mais qu'a issu.
Oui, mais qu'a issu, oui, exactement.
Est-ce que par hasard, tu ne serais pas galiléen, toi aussi?
Oui, oui, oui.
Parce que tu n'es pas naturel.
Voilà.
Mais c'est une manière de dire, d'ironiser en évoquant quelque chose qui est de toute façon exclu.
Oui, bien sûr.
Et donc, on reprend le débat au départ.
Oui, exactement. Je crois que c'est tout à fait bien vu et. Donc, c'est une interrogation, en fait. C'est une interrogation que Nicodème se pose, et puis... une fausse interrogation, oui. Et ça va appeler... ça appelle quelque chose, parce que Nicodème cherche, en fait. Il veut savoir. Donc, oui, il s'interroge, et il va pousser le maître à lui dire... Et il va demander au maître où veut-il aller. C'est un peu comme ça que je verrai les choses.
Outre que, il y a la question aussi des signes.
Oui.
Parce que dès le départ, il dit, nous savons qu'un homme qui fait des signes, des signes, des faits, des miracles, ne peut venir que de Dieu. Bon, après tout, donner la vue à l'aveugle dans le sens,
oui,
de faire qui doit ressusciter un mort, c'est aussi des choses impossibles.
Oui. De faire. Voilà.
Donc, on est là face à une sorte de d'impossibilité,
oui,
et de défi qui, oui, est posé à la raison raisonnante.
Oui, tout à fait. Alors, en même temps, le Christ se méfie de la foi de ceux qui... de ceux qui se convertissent intérieurement simplement au vu des signes. D'ailleurs, hein, vous vous souvenez, hein, dans les versets 23 à 25 du deuxième chapitre, il le dit très clairement. Si la foi n'est fondée que sur la visibilité des signes, il y a quelque chose qui lui manque. Ses fondements sont peu solides, en définitive. Mais en même temps, c'est des signes qui sont reconnus de Dieu, parce que les signes, il n'y a pas que le Christ qui en accomplit. Les démons sont capables d'accomplir des signes. Dans l'Apocalypse, par exemple, il y a un signe, il y a le feu du ciel qui est envoyé sur la terre et qui est très destructeur. Et par contre, les démons n'accomplissent jamais des signes de miséricorde. Les démons ne guérissent pas. Les démons ne relèvent pas. Ils accomplissent des signes qui manifestent leur puissance infernale, mais chez le Christ, c'est le contraire. C'est des signes qui manifestent la miséricorde de Dieu et qui sont là pour susciter la foi et la renforcer, et non pas pour faire éclater une toute puissance surnaturelle. Donc là, les perspectives sont très différentes. Alors, on est passé du voir le royaume de Dieu à entrer dans le royaume. Et il est dit, amen, amen, je te le dis, nul s'il ne naît de l'eau et de l'esprit ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit, il vous faut renaître d'en haut. Alors, qu'est-ce que ça signifie, cette naissance d'en haut? Le verset 5 nous apporte une première réponse, une naissance d'eau et d'esprit. Alors, l'eau et l'esprit, qu'est-ce que ça peut illustrer? Peut-être le contraste entre la naissance physique, symbolisée par l'eau, et la naissance spirituelle, l'esprit. Aussi, la régénération par l'esprit et le baptême d'eau qui marque cette nouvelle naissance. Et l'eau, nous le savons, elle peut aussi signifier l'action purificatrice du Saint-Esprit, comme c'est dit dans Ézéchiel 36, 25-36, qui est véritablement un récit que l'on pourrait dire typologie du baptême. Je cite, « Je ferai sur vous une aspersion d'eau pure et vous serez purs. Je vous purifierai de toutes vos impuretés et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur neuf et je mettrai en vous un esprit neuf. Et j'enlèverai de votre corps, le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon propre esprit. Je vous ferai marcher selon mes lois. » Fin de citation. Donc, déjà, naître d'eau et d'esprit, ça renvoie très explicitement au baptême de la régénération, mais ça fait aussi écho à la Genèse, hein, au récit de la création dans la Genèse, puisque, comme nous le savons, l'esprit planait au-dessus des eaux. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la nouvelle naissance dont parle le Christ à Nicodème, c'est un véritable acte créateur. C'est un acte créateur. Et comme tout acte créateur, il appelle l'intervention du Saint-Esprit. Ça veut dire également, puisque cette nouvelle naissance nous fait voir et peut nous faire entrer dans le royaume, que le royaume, ce n'est pas une notion simplement n'est pas une réalité qui intervient à la fin des temps, pas seulement de cet ordre-là, mais que dans l'évangile de Jean, c'est d'abord un mode d'existence qui est radicalement nouveau. Mais dès l'ici maintenant, c'est-à-dire que, bon, évidemment, le royaume de Dieu, il est dans l'ici maintenant et il est à la fin des temps, en plénitude. Mais contrairement, disons, à une certaine conception courante de ce temps-là, le royaume n'est pas simplement une promesse devant advenir à la consommation des siècles. Le royaume, il vient au milieu de nous, dans la personne du Christ. Et il nous faut naître d'eau et d'esprit pour voir et entrer dans ce royaume. C'est ça la leçon qu'il donne à Nicodème.
Théologiquement, c'est le royaume inauguré.
C'est le royaume inauguré, oui. Et évidemment, on ne peut recevoir cette nouvelle naissance que d'en haut. Troisième acception de l'adverbe anophène, donc d'en haut. Parce que c'est ce que dit le Christ donc au verset 6, « Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. » Alors là, il y a, vous savez que le mot « chair » dans l'évangile de Jean, il a plusieurs acceptions. Il désigne à la fois l'homme retranché de la source divine, chez Jean et chez Paul et chez les autres évangélistes, il y a la thématique de l'homme spirituel et de l'homme charnel dans saint Paul, l'homme psychique ou animal ou charnel selon les termes de différentes traductions, et l'homme spirituel. Et la chair aussi, c'est le signe de la limite, de la faiblesse de l'homme, de son lien avec les seules réalités terrestres. Voilà, donc un mode d'existence radicalement nouveau qui ne peut être reçu que d'en haut. Là, il y a une citation de Tite, de l'apôtre Paul à Tite, au 3e chapitre, verset 5, qui est intéressante. « Et il ne l'a pas fait à cause des œuvres de justice que nous aurions pu accomplir, mais cette naissance d'en haut, donc, mais conformément à sa compassion, à travers le bain de la nouvelle naissance et le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a répandu avec abondance sur nous par Jésus-Christ, notre Sauveur. » Donc l'eau et l'Esprit, c'est le baptême qui évoque la nouvelle naissance. C'est l'insertion dans la famille de Dieu, l'Église. L'Église, c'est la famille de Dieu. L'Esprit, c'est quelque chose de mystérieux aussi dans l'Écriture. C'est la pneuma, c'est la roua hébreu, c'est le vent, c'est le souffle, c'est l'Esprit. Le terme désigne ces trois choses. Et il est quatre fois utilisé dans les versets 5 à 8, l'Esprit qui souffle où il veut. Versets 5 à 8, l'Esprit. Donc cette réalité mystérieuse qui est à la fois vent, souffle et personne divine, qui vient de Dieu, qui est le souffle vivificateur, comme nous l'appelons. Alors, c'est une condition impérative. Le verset 7 le dit, il faut que vous naissiez d'en haut. Et le « il faut », il est répété à deux reprises. Je ne vais pas perdre trop de temps à le chercher, mais... Donc, verset 7, « il faut renaître d'en haut ». Et un peu plus loin, c'est encore utilisé, cette expression. Alors, qu'est-ce que ça veut dire « voir le royaume de Dieu » ? Ce n'est pas seulement en regarder les manifestations visible, apparente, mais c'est discerner le roi, c'est discerner le Christ qui est le roi de ce royaume. Et pour le discerner, nous avons besoin de l'Esprit, parce que c'est lui qui va ôter le voile de notre vue. Nous ne pouvons pas le faire par nos seules forces. L'homme, évidemment, ne parvient pas seul à la connaissance des choses de l'Esprit. Et comme je disais tout à l'heure, la science de Nicodème, eh bien, elle ne saurait par elle seule y parvenir pleinement. Sur le caractère mystérieux de l'Esprit, on trouve un certain nombre de choses dans l'Écriture sainte, dans Coëlette, au 11e chapitre, verset 5, dans les Proverbes, 30, verset 4, dans le Siracide, au 16e chapitre, verset 21. On trouve beaucoup donc d'éléments qui nous permettent de réaliser, de cerner, pour autant que la faiblesse humaine le permet, cette réalité mystérieuse. Alors, quelle est la visée du Christ parlant à Nicodème? Bon, il s'adresse à et il est évident que, en vertu du fait que la parole de l'Évangile est inscrite dans une histoire, mais qu'elle a une visée pour tous les temps, à travers Nicodème, le Christ s'adresse à tout homme. Et il veut nous faire entendre, et là je cite encore Donatien Mola, « la voix de l'Esprit qui souffle sur notre être de chair, plus mystérieusement encore que le souffle de la vie dans le sein maternel, afin de nous transformer et nous emplir de la vie nouvelle. » Fin de citation. La vie nouvelle, elle s'origine dans la naissance d'en haut, mais elle résulte aussi, ainsi que je vous l'ai dit tout à l'heure, de l'action prolongée de l'Esprit pendant toute la vie. Parce que il s'agit de correspondre toujours plus intimement à cette naissance d'en haut que nous recevons. Il faut s'identifier progressivement et toujours plus intimement à elle, et c'est le travail de toute la vie chrétienne. Alors, à partir du verset 9, nous voyons Nicodème beaucoup moins sûr de lui. Encore une question qu'il pose, mais si on suit le récit attentivement, il reprend la parole, mais avec moins de force qu'au début. Au début, c'est « Rabbi, nous savons que ». C'était une affirmation un peu péremptoire. « Nous savons que ». Et là, il dit « Mais comment est-ce possible ?» Verset 9. Nicodème lui répondit « Comment cela peut-il se faire ?» Jésus lui dit « dans ma traduction, tu es le docteur d'Israël, c'est un maître en Israël plus exactement, et tu ignores ces choses. En vérité, je te l'ai dit, nous parlons de ce que nous savons et nous témoignons de ce que nous avons vu, mais vous ne recevez point notre témoignage. » C'est un peu énigmatique ces trois versets. Bon, Nicodème est moins assuré qu'au début. Et néanmoins, la question qu'il pose, comment cela est possible, s'attire une réponse aussi abrupte que lors du premier.